Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Estoy embarazada.
Pero estás segura?
José, ¿qué vamos a hacer, por favor?
Hostia, qué palizas están dando sus libros.
Si es que no tenéis que darle más vueltas. O tenéis el crío o no lo tenéis.
Tú eres la que tienes que decidirlo, Rosario.
Por eso, si estás decidida, lo mejor es intervenir cuanto antes.
Miedo sí tengo, pero es igual, quiero hacerlo.
¿Cuánto hay que pagarla?
25.000.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au cinéma kinky. Ça s'écrit kinky, hein, Q-U-I-N-Q-U-I, mais ça se prononce kinky, qui est mise à l'honneur, ce cinéma, ce type de cinéma, dans un superbe coffret sorti chez Artus Film. Alors, un coffret collector qui est blindé de bonus. Alors, il comprend trois films signés Eloy de la Ecclesia, El Pico 1 et 2, ainsi que Colegas. Il y a aussi un livre de David Didlot qui est intitulé Ciné kinky, donc les loups sont dans la rue. Et nous, on est allé à la rencontre de Maxime Bress et Laureano Montero. Alors, deux universitaires, ils ont signé, ces deux universitaires, chacun une thèse sur le cinéma kinky. Alors, Maxime Bress a signé le cinéma kinky selon Eloy de la Ecclesia, corps à corps érotique et politique dans Navalleros, Colegas, El Pico et El Pico 2, qui est publié dans la collection Terre Hispanique. C'est édité par Publibook. Ça se trouve assez facilement sur le net. Je vous invite à lire cette thèse, c'est passionnant. Et puis, l'autre thèse, elle est disponible en ligne sur thèse.fr, hein, thèse au pluriel.fr. Une thèse énorme hein, qui fait un peu plus de 600 pages, qui s'appelle. Donc, qui est signé donc Laureano Montero et qui s'appelle Eloy de la Ecclesia, marginalité et transgression. C'est passionnant et puis d'ailleurs ils sont passionnants dans les bonus de ce coffret. Et l'équipe de Culture Prohibée remercie Thierry Lopez et Kevin Boissezon pour leur aide sur cette émission. Émission qui, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, revue disponible sur le site de l'éditeur, theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires. À mes côtés pour causer cinéma kinky, je suis entouré en fait aujourd'hui d'adeptes de la bisexualité, des drogues en tout genre, voilà, et de la délinquance juvénile et même de la délinquance adulte. Je veux bien sûr parler de mes chroniqueurs préférés, Damien Demédy, la bête noire de Compiègne, un bel archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur Podclad. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Un autre bel animal, mais beaucoup plus velu, le loup-garou Picard, de son vrai nom Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Hola Thomas.
Hola Damien, hola Gégé et hola à toutes.
Afin de faire plus ample connaissance avec le cinéma kinky, hein, je vous propose tout de suite que nous rejoignions Maxime Bress, qui est professeur agrégé, et Laureano Montero, qui est maître de conférence. Ils sévissent tous les deux à l'université de Bourgogne, donc à Dijon, ville où l'on mange très bien et où l'on boit de très bonnes choses, mais je n'en dirai pas plus, sinon je tomberai sous le coup de la loi Eva. Surtout, les deux auteurs, chacun de leur côté, décrit sur le cinéma kinky. C'est les premiers en France à avoir vraiment écrit des thèses très documentées sur le cinéma kinky, donc ils connaissent bien leur sujet. Ils sont présents dans les bonus de ce coffret, le cinéma kinky d'Eloy de la Ecclesia, édité par Artus Film, et donc tout de suite, Maxime Bress et Laureano Montero, au micro de Culture Prohibée. Qu'est-ce que, pour vous, le cinéma kinky, qu'on appelle aussi parfois le cinéma de la transition démocratique ?
Le cinéma kinky, c'est un genre cinématographique hein, avec ses propres codes, qui est né effectivement en Espagne au moment de la transition démocratique, donc après la mort de Franco, à partir dans la seconde moitié des années 70, et qui met en scène de jeunes délinquants, de jeunes marginaux. Donc on va y retrouver tout un univers de violence, les drogues également seront très présentes. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le cinéma d'Eloy de la Iglesia et dans le cinéma kinky également, c'était la chronique en fait d'une époque à travers ses marges.
J'ai lu aussi dans vos travaux, Maxime, que ça avait démarré même, bon, certains font remonter ça à Los Olvidados de Buñuel et tout, mais très concrètement, avec le terme kinky, ça a démarré avec Kinkis de Madrid, du dramaturge José María Rodríguez Méndez, qui était une pièce de théâtre qui a été interdite par la censure franquiste et qui datait de 1967.
Oui, alors d'une part, effectivement, le motif, on va dire, des voyous n'est pas quelque chose de complètement nouveau, que ce soit dans le cinéma espagnol, mais même dans le cinéma mondial. Il y avait déjà un bon terrain, en fait, parce que la thématique en elle-même est très cinématographique. Comme le disait Laureano, c'est vraiment un cinéma de sur la marginalité, sur la marge, donc c'est déjà une thématique assez privilégiée, on va dire, au cinéma. Mais effectivement, le mot kinky apparaît dans le titre d'une œuvre théâtrale, cette fois-ci, de cette époque-là, qui avait été censurée de par sa thématique. Hein. Le franquisme n'acceptait pas que l'on puisse le tenir responsable de la situation de ces jeunes voyous, d'une certaine forme de marginalité, voire de pauvreté en Espagne à cette époque.
Et le terme kinky, il vient d'où pour l'expliquer à nos auditrices et auditeurs ?
Le terme kinky vient de l'espagnol en fait, quincalleros, qui fait référence à la quincaillerie. On pourrait le traduire en français en fait par ferrailleur. C'est-à-dire, c'est toutes ces personnes qui, pour survivre, vont récolter de la ferraille et la revendre. Et donc, en fait, par un jeu de transposition, c'est devenu synonyme, en fait, de délinquant juvénile.
Et moi, il y a quelque chose qui me... Bon, ça me fait très plaisir que ces films sortent, parce que ça fait longtemps qu'on avait des éditions anglo-saxonnes et qu'on voulait voir un éditeur français les sortir. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y en a d'autres. Et j'ai toujours été très étonné de voir, alors on avait eu El Pico, le premier en VHS en France, mais que le phénomène n'a jamais vraiment pris en France. Pourtant, il y a eu des kinky, on va dire, célèbres. Hein, si on prend l'exemple de Carlos Saura avec Vivre Vite, et puis même, on peut peut-être le rattacher aussi au genre, à Coup de Crosse de Vicente Aranda. Donc c'est quand même des cinéastes assez connus, assez célèbres. C'est des films, alors c'est peut-être pas leurs films les plus connus, bon, même si Vivre Vite a été primé. Comment expliquez-vous que ça n'a pas pris en France ces films-là, qui sont pourtant des films passionnants ?
Effectivement, hein, le cinéma kinky n'a pas du tout été vu à l'époque de sa sortie en Espagne. Alors l'exception notable, c'est effectivement le film de Saura qui a gagné un Lion d'argent à Berlin, au Festival de Berlin. Mais Saura avait déjà derrière lui toute son aura d'auteur. Hein, d'auteur le plus connu du cinéma espagnol de l'époque. Donc son film Vivre Vite a été vu en France. Hein. Mais par contre, un cinéaste comme Eloy de la Iglesia n'a jamais été distribué commercialement en France au moment de la sortie des films en Espagne. Alors moi, j'explique ça peut-être parce que c'est un cinéma de genre, peut-être. c'est un cinéma également très très lié à un contexte national qui n'a peut-être pas intéressé les distributeurs français à l'époque. C'est tout récemment que Eloy de la Iglesia notamment a été connu et reconnu en France. Tout récemment, la Cinémathèque française lui a consacré en juillet dernier une rétrospective de l'intégralité de sa filmographie. Alors, il y avait eu un petit précédent avant, l'Étrange Festival lui avait déjà consacré une rétrospective en 2003. Mais en dehors de ces initiatives, c'est vrai que c'est un cinéma qui n'a pas du tout été vu en France, qui n'a pas intéressé en France.
Ça vient peut-être aussi du fait qu'en fait, c'est un cinéma qui interroge aussi un peu les frontières entre la réalité et la fiction, et que sa mécanique, elle repose sur le fait que ces délinquants étaient en fait déjà connus des Espagnols, puisqu'il s'agissait de voyous qui défrayaient la chronique. Et si on enlève cette dimension-là, ce jeu entre l'existant et ce qui est fictionnalisé, je pense qu'en contexte, ça perdait peut-être un petit peu de son intérêt. Et que ces jeunes-là étaient complètement inconnus pour des Français.
Oui, tout à fait, parce que les films en fait ont eu une énorme répercussion en Espagne, parce que très souvent ils faisaient intervenir de véritables délinquants qui étaient connus, qui faisaient la une des journaux et l'ouverture des journaux télévisés, comme El Vaquilla, par exemple, qui était un voyou très très connu à l'époque. Et donc il y avait ce jeu, effectivement, ce jeu de miroir entre réalité et fiction. Et comme le dit Maxime, ce jeu se perd hors contexte espagnol.
Y no me daba cuenta de este extraño amor.
Vous écoutez Maxime Bress et Laureano Montero au sujet du coffret Cinéma Kinky, édité par Artus Film, au micro de Culture Pro. Ces trois films qui sont Colegas et El Pico 2, est-ce que vous pouvez nous les présenter, puis surtout nous dire l'importance qu'ils ont dans l'histoire de ce cinéma kinky?
Donc Colegas donc, est un film de 1982, c'est un film donc, qui cherche à représenter les difficultés de la vie de jeunes gens. Alors qu'ils ne sont pas vraiment des kinkies au départ, ils sont issus des quartiers populaires de la capitale, hein, notamment d'un immeuble, hein, qui ressemble vraiment à une ruche urbaine qui est en bordure du périphérique madrilène. Donc ce ne sont pas de jeunes délinquants au départ. Donc il y a en fait peut-être une tentative de renouveler un peu le genre ou de lui apporter des nuances, hein, par rapport à d'autres films peut-être plus canoniques. Hein. Donc là, ce sont de jeunes gens au départ sans histoire, issus des milieux populaires de la banlieue madrilène, qui vont tomber dans la délinquance, dans le trafic de drogue. Donc c'est l'histoire d'un trio, hein, un couple d'adolescents et puis le frère de la jeune fille. Et donc ils tombent dans la délinquance parce que la jeune fille tombe enceinte et ils doivent réunir de l'argent pour pouvoir payer l'avortement. Et donc c'est un film qui a eu une certaine répercussion aussi au moment de sa sortie, parce qu'il est sorti donc quelques jours avant la première victoire du Parti socialiste en 1982 en Espagne, et donc avant la légalisation de l'avortement. Hein, à l'époque, l'avortement était encore interdit en Espagne.
Alors, en ce qui concerne El Pico et El Pico 2, ce sont donc deux films respectivement de 82 et 83. Pour résumer très brièvement, en fait, ce sont deux films qui racontent vraiment l'enfer de la drogue de deux jeunes. Alors là, c'est plus à Madrid, mais au Pays Basque, de deux jeunes qui tombent dans l'enfer de l'héroïne. Et donc, sur les deux volets du film, on va les suivre un peu dans cette chute, en fait, à la fois sociale et personnelle, liée aux affres de la drogue. Et donc, l'intérêt du film, c'est qu'en fait, c'est un peu un miroir de ce qu'est en train de vivre aussi le cinéaste qui fait face à des problèmes d'addiction. Et voilà, il y a vraiment une grande charge, on va dire, autobiographique dans ce film. A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino. A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino. Y tus leyes no te sirven, ni tu pistola tan buena. La heroína es tu enemigo, yo tu hijo es el problema. Mi libertad yo deseo, tiniebla y me cerraron la puerta y mi mente se confunde y ya no me quedo fuerza y me perdí en la tiniebla.
Vous écoutez Maxime Bresse et Laureano Montero au sujet du coffret Cinéma Kinky, édité par Artus Film, au micro de Culture Prohibée. alors ces deux films, El Pico 1 et 2, alors excusez-moi, El Pico Uno y Dos, je vais essayer de le faire, de le prononcer comme il faut, mais je ne maîtrise pas très bien, je maîtrise mieux la langue de Shakespeare malheureusement que celle de Cervantes. Il y a, comment dire, aussi moi, quelque chose que je trouve très intéressant, alors on reviendra après sur le lien entre la vie personnelle d'Eloy de la Iglesia et le cinéma kinky, mais moi ce que je trouve très intéressant, alors comme dans Colegas, hein, c'est des films qui essayent d'éviter les clichés, parce que c'est dans El Pico 1 et 2, il y a deux gamins qui sont potes, il y en a un qui est fils d'un type de la Guardia Civile, et l'autre qui est fils d'un militant plutôt socialiste, et c'est très intéressant, et parce que il y a cette amitié, et puis il y a aussi ce personnage de type peu recommandable, on l'imagine bien, qui fait partie de la Guardia Civile, mais qui, par amour pour son fils, va pas forcément avoir le comportement qu'on aurait pu attendre de lui si le film avait été manichéen, en fait.
Les deux films sont très liés au contexte du Pays Basque. Hein. Le cinéma d'Eloy de la Iglesia est toujours un cinéma très très lié à l'actualité immédiate. Hein. On l'a vu avec l'avortement dans Colegas. El Pico et El Pico Dos sont très liés à la situation au Pays Basque, hein, donc aux problèmes nationalistes et aux problèmes du terrorisme. Alors le père, le leader politique, le père d'un des jeunes garçons, c'est un leader d'un parti de la gauche nationaliste indépendantiste. Hein. Donc c'est deux milieux vraiment antagonistes, la Guardia Civile, qui est considérée par beaucoup de Basques comme une force d'occupation, en tout cas d'oppression exercée par l'État espagnol sur la population basque, et de l'autre côté, donc un parti politique qui représente les aspirations, hein, indépendantistes d'une partie de la société basque. Hein. Et le film dit des choses assez dérangeantes, hein, sur la situation politique de l'époque, notamment le fait que la Guardia Civile trempe plus ou moins dans le trafic de drogue, et puis également les tortures, hein, qui avaient couramment lieu dans les casernes de la garde civile à l'époque. En fait, l'idée du scénario part d'un fait divers. Alors, Eloy de la Iglesia avait un autre projet de film qu'il n'a jamais pu réaliser, hein, qui s'intitule en espagnol Galopa y corta el viento. Donc il a écrit le scénario, mais il n'a jamais pu le réaliser, parce que là il allait un petit peu plus loin. C'était une histoire d'amour, hein, entre un garde civil et un militant nationaliste basque. Hein. Et là la thématique n'a pas convaincu, disons, les producteurs, hein, parce que ils ont jugé que c'était trop sulfureux pour l'époque. Donc il y a aussi un aspect de dénonciation, hein, par rapport à une situation politique également au Pays Basque.
Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a effectivement un lien très fort que l'on peut tracer entre la vie personnelle d'Eloy de la Iglesia, qui d'ailleurs, après ses films kinky, parce qu'il va en faire plus que trois, hein, il va en faire toute une petite série, va disparaître de la circulation pour essayer lui-même de soigner ses addictions. Et on va beaucoup reprocher aussi à Eloy de la Iglesia le fait d'être très proche, parce qu'il y a une grande sensualité des corps qui est mise en avant dans ces films. Il y a une grande place qui est laissée à la bisexualité, à l'homosexualité. Et on a prêté à Eloy de la Iglesia des relations avec quelques-uns de ses acteurs, en particulier l'acteur principal de ces trois films-là, qui aura une destinée tragique, puisqu'il mourra très jeune d'une overdose. Comment vous regardez tout ça, vous, avec du recul? Parce qu'il paraît évident, par contre, que ça a eu un impact très fort sur Eloy de la Iglesia lui-même, qui a quand même
après cette période un peu disparue, n'a plus produit grand-chose en termes de, pas de qualité, mais de quantité, parce qu'il ne tournait plus de films. Quoi.
Il y a quelque chose de vraiment sulfureux dans ces films-là, parce qu'ils projettent un certain regard homo-érotique sur le corps de ces jeunes voyous, qui sont pour la plupart mineurs. Donc il y a déjà quelque chose d'assez sulfureux là-dedans, même si évidemment c'est pas assumé de façon très claire et là on est plus dans l'analyse filmique et du regard en fait du réalisateur sur ces jeunes acteurs. Évidemment, ça participe un peu à la réécriture de ce genre filmique, parce qu'en fait, le cinéma kinky, par exemple, tel qu'on peut le voir chez José Antonio de la Loma, qui est un peu celui qui a inventé le genre en Espagne avec une série de films qui s'appelle Perros Callejeros, est plutôt du côté d'une certaine masculinité très hétérocentrée, justement, et de personnages quand même assez, on va dire, assez macho ibérique, avec beaucoup de guillemets, évidemment. Alors que chez L'œil de la Iglesia, justement, il renverse un petit peu le regard qu'il peut porter sur ces jeunes voyous en homo-érotisant énormément leur corps. Alors, ceci dit, ça fait évidemment référence aussi à sa vie personnelle. Il y a énormément, je crois qu'on est plus du côté de la mythologie, de rumeurs qui circulaient sur des liaisons qu'il pouvait entretenir avec les protagonistes de ces films, mais on n'a jamais eu de preuves, on va dire, sur ces relations-là. Il y a encore des publications qui se font aujourd'hui et qui sont vraiment du côté de la mythologie. On essaye de démontrer par A plus B qu'il avait des relations systématiques avec les acteurs, mais d'un point de vue tout à fait objectif et scientifique, rien n'est prouvé. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est lié peut-être, et c'est beaucoup plus malheureux, El Hoy de la Iglesia à ses acteurs, c'est la drogue, justement, qui semblait véritablement circuler sur les tournages, et qui l'a empêché de tourner pour des raisons de santé, en fait, hein, durant de nombreuses années. Et c'était un peu aussi le but de mon travail lorsque j'ai rédigé cet ouvrage sur le cinéma kinky d'El Hoy de la Iglesia, c'est qu'il faudrait replacer, et c'est ce que sont en train de faire la plupart des chercheurs aujourd'hui, cette cinématographie un peu dans l'écriture aussi de l'homoérotisme à l'espagnol, au même titre que des cinéastes beaucoup plus connus comme Pedro Almodóvar, par exemple.
Ça a toujours été au centre de son cinéma, aussi bien alors l'homosexualité, l'homoérotisation, le féminisme aussi, mais c'est un progressiste, et tout cela a toujours été au sein de son cinéma, et en fait c'est présent dans ses kinky, mais comme c'était présent dans ses films précédents.
Oui, 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 tout à fait. Hein. En fait, moi, je trouve que c'est un cinéaste très intéressant parce que, justement, il fait un cinéma hein, qui est un petit peu à la croisée entre le cinéma d'auteur, parce qu'il y a vraiment un ton très personnel hein, et un style aussi très très personnel, mais il s'adresse aussi au grand public. Hein. Son cinéma est résolument installé dans la culture de masse. Hein. C'est un cinéma qui fait mine d'accepter les règles et le langage du cinéma commercial pour mieux les subvertir en fait de l'intérieur, hein. Et il ne cesse d'introduire dans ses films des sujets tabous, des sujets polémiques, en développant un discours radical, hein, un discours critique sur la réalité espagnole de l'époque. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, te de la pestañita y te va para el talego. La rifa es una cosa que te pone ciego, te de la pestañita y te va para el talego. Dame chocolate que me ponga.
Vous écoutez Culture Prohibée. Les amis, nous venons d'écouter donc Maxime Bress et donc Laureano Montero, hein, qui ont développé pas mal de choses autour du cinéma kinky, qui nous ont aidé un peu à comprendre un peu, enfin, en tout cas, il y a une sorte de mise en perspective de ce cinéma, de remise en situation, de remise dans le contexte, et puis aussi la richesse de ces films, hein, qu'on a abordé avec Maxime Bress donc et Laureano Montero. Le cinéma kinky, donc bon, moi je suis ravi, Thomas Roland qui est là peut en témoigner, ça fait des années que je l'embête avec ça, hein, parce que je dis mais quand est-ce qu'un distributeur français va nous sortir ses films en Blu-ray, en DVD, enfin peu importe, voilà, c'est important. Alors j'avais des copies des éditions, les éditions anglo-saxonnes, d'ailleurs Navalleros reste à sortir, qui est disponible dans une belle copie, mais ces films étaient quasi invisibles en France, sauf pour ceux qui avaient eu la chance de les voir à l'étrange festival, mais sinon ces films étaient littéralement invisibles en France, hein, là, on a dans ce coffret trois films. Alors, on va les prendre dans l'ordre où ils sont sortis. On va d'abord parler de Colegas. Colegas, qui est qui s'inscrit complètement dans cette veine du cinéma kinky et qui est une œuvre de Eloy de la Iglesia. Alors, Eloy de la Iglesia, on en a déjà parlé dans l'émission. C'est un réalisateur qui est assez méconnu, assez ignoré en fait de l'édition vidéo. Alors, tu sais, il avait sorti Cannibal Man, qui était à peu près le seul film connu de Eloy de la Iglesia, parce qu'il était sorti il y a longtemps chez Scarzo. D'ailleurs, Cannibal Man n'a strictement rien à voir avec le titre original, qui devait être, si on le traduit en français, La semaine d'un assassin. Et qui était une incroyable métaphore sur le régime franquiste. Et sur, comment dire, l'oppression faite aussi sur les jeunes, sur les homosexuels, et l'aliénation par le travail. Enfin, c'est un film génial, hein. Moi, j'adore Eloy de la Iglesia, qui s'est servi du cinéma de genre. On pense aussi à El Teco de Glace, le plafond de verre, qui est une sorte de film, qui est une sorte de giallo de machination comme ça, où il va traiter du sort qui est fait aux femmes, en fait, par la société espagnole. Enfin, c'est assez passionnant. Et il va inaugurer un cycle, hein, comme on discutait, avec plusieurs films kinky. Alors, il n'y a pas que celui-là. Avant Colegas, je crois qu'il y en a Valleros. Il y en aura d'autres après, dont un dernier titre un peu parodique, d'ailleurs, qui se passe dans une boutique. Mais là, avec Colegas, on est vraiment dans le dur, quoi, de ce qu'est le cinéma kinky, qui nous décrit donc le parcours, souvent, de... En fait, c'est des films sur la délinquance juvénile, hein, pour parler clairement. C'est pas nouveau, mais dans le cadre du cinéma espagnol, bon, il y a la mort de Franco en 75, 77, la fin de la censure, et... plein de cinéastes vont s'engouffrer dans ces films sur la délinquance juvénile. Et même Carlos Saura, le grand Carlos Saura, qui va être primé pour le film Vivre Vite, hein, qui est un kinky, hein, voilà, qui était à peu près le seul qu'on pouvait voir facilement en France, avec peut-être À coup de crosse de Vicente Aranda, qui est une sorte de kinky un peu tardif, quoi. Colegas, il est intéressant à plein d'égards, c'est assez simple. L'histoire est assez simple. C'est un frère, une sœur. La sœur se retrouve enceinte. Bon, tout le monde se drogue. Tout le monde profite des joies sexuelles. Une sorte dans les bas-fonds d'ennui aussi qui se créent. On cherche du travail. On n'en trouve pas. C'est la misère. Il n'y a rien qui est prévu pour ces jeunes. Ils vivent dans des... Comment dire, la cellule familiale est un peu particulière aussi, coincée entre tradition et modernisme, enfin plus tradition que modernisme quand même. Au milieu de tout ça, va se débattre ce petit monde. Mais tout part au départ quand même de cette idée de vouloir payer un avortement pour sa frangine, parce qu'elle a fait l'amour avec son meilleur pote à lui en plus, donc voilà, et tout part de ça. Et de là, le réalisateur Eloy de la Iglesia, alors là, qui est loin C'est aussi un genre à part entière avec ses codes, le cinéma kinky, hein, mais qui est en tout cas loin de son univers, je veux dire, plus cinéma fantastique, SF, par exemple le bal du vaudou, enfin on est loin de tout ça, et qui décrit là une société où la place n'est pas faite aux jeunes, et aussi où il y a une certaine magnificence autour du corps de ces jeunes, une certaine fascination, et en même temps, il y a une forme de déterminisme social, mon cher Thomas, qui amène ces jeunes dans des situations assez terribles. Et Collégas, pour ça, pour moi, c'est un film très fort.
Et c'est un film qui évite aussi, à mon sens, tout misérabilisme. Il n'est jamais dans un point de vue misérabiliste dans la façon dont il présente ses personnages. Il y a même parfois de l'humour, il y a une certaine forme de dérision. Je pense notamment à une scène où le personnage qui a mis la jeune femme enceinte, il dort dans la même chambre que ses deux frères. Et le soir, ses deux frères, ils se masturbent. On dirait qu'ils font un peu la course, puis après ils s'essuient avec la même chaussette. Bon, c'est très drôle, moi je trouve ça très drôle. Il y a d'autres passages comme ça dans le film qui sont un peu plutôt humoristiques, alors qu'en fait finalement le film, c'est vrai qu'il est plutôt sombre, mais il n'appuie jamais son discours, il n'appuie jamais sur le côté sombre, alors qu'on sait très bien que ça, d'une façon ou d'une autre, le film va se finir sur un drame, quelque part. On sait que ça va mal finir, il fréquente des gens pas fréquentables du tout, ils se mettent à trafiquer de la drogue pour pouvoir ramasser de l'argent pour l'avortement, enfin, tout ça c'est très bien décrit, et je trouve que le film, il a vraiment un bon rythme. Il est passionnant de bout en bout. Et on voit bien, il décrit bien l'engrenage qui amène ces jeunes qui, au départ, ne font que... Bah, ils se droguent un petit peu, quoi. Mais comment ces jeunes en viennent à devenir vraiment des délinquants et jusqu'à l'irréparable, quoi.
Le petit plus, bon, le film met en vedette José Luis Manzano. Alors, José Luis Manzano, le très beau José Luis Manzano, d'ailleurs, on sent une attirance du metteur en scène pour José Luis Manzano, qui est au centre de tous ces films kinky, hein, qui est, c'était le héros de Navalleros aussi, il est là. Alors, faut savoir que, alors, on en a un peu discuté depuis le début de l'émission, mais ces acteurs étaient souvent joués par des vrais kinky, qui souvent avaient fait de la prison, qui étaient vraiment des gens qui prenaient des drogues dures, et qui ont d'ailleurs ce pauvre José Luis Manzano, là, l'acteur principal, qui est aussi l'acteur principal de El Pico et El Pico 2, dont on va parler, il va d'ailleurs mourir à même pas 30 ans d'une overdose, hein. C'est son destin. Et alors, bon, bah, évidemment, on a reproché beaucoup de choses à Eloy de Leyclézard. Eloy de Leyclézard, c'était un anti-franquiste, c'est un intellectuel qui a fait une partie de ses études de cinéma en France, d'ailleurs, hein, à la FEMIS, et qui a une vision politique très forte, qui est un type très intelligent. Bon, certains l'appellent le Fassbinder ibérique. Je suis pas vraiment d'accord, parce que Fassbinder, pour moi, esthétiquement, c'est très différent de ce que fait Eloy de Leyclézard. Je suis pas d'accord avec cette analogie, moi. C'est juste un cinéaste homosexuel comme Fassbinder, et qui aimait bien filmer des jeunes hommes nus, ou qui aimait bien érotiser, en tout cas, le corps des jeunes hommes. C'est le seul point commun que je vois entre eux, mais je vois pas... pour moi, ce sont deux cinéastes très différents.
Que quise yo
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Cinéma Kink. Eloy de la Iglesia, on va beaucoup lui reprocher parce que, bon, bah, il aurait vécu une histoire d'amour avec Manzano, il était beaucoup plus âgé que lui, et il prenait lui-même de la drogue, et d'ailleurs, après ses films kinky, va être, Eloy de la Iglesia, très grand cinéaste, va être longtemps sans tourner parce qu'il n'arrive pas à sortir de la drogue, il n'arrive pas à sortir de sa dépendance, maladie terrible. D'ailleurs, ce qui est étonnant, dans ces films qui mettent en scène des toxicomanes, hein, qui mettent en scène des gens qui tombent, parce que ça décrit une descente aux enfers quand même, hein. Une descente aux enfers qui est induite aussi par la société. D'ailleurs, dans les frères de José Luis Manzano, dans ce film, dans les trois qui se masturbent dans la chambre, il y a El Piri qui a des dents un peu cassées, et lui, on voit bien, il a une tête de toxico, mais terrible. Et lui, El Piri, c'est un vrai kinky. C'est un vrai kinky, c'est un vrai délinquant qui faisait des allers-retours entre la prison et le cinéma. C'était des castings sauvages, on allait chercher des vrais durs à cuire qu'on amenait dans ces films. Et c'est vrai qu'ils sont authentiques, ce sont de très bons acteurs. Bon, ils jouent leur propre rôle, mais ils sont très très bons. Et comment dire, alors oui, on a beaucoup reproché tout ça à Eloy de la Iglesia, a posteriori. On lui a beaucoup reproché. Néanmoins, écoutez, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. On sait que Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, couchaient avec leurs acteurs, que voilà, bon, tout ça, c'est assez connu, quoi, voilà. Mais moi, ce qui me fascine dans ces films, Thomas l'a dit, il y a aussi des scènes oniriques qui sont très, très, très marquantes, mais ce qui me fascine dans ces films, c'est que c'est quand même un film fait par quelqu'un qui est prisonnier de sa dépendance à la drogue, sur des gens qui se droguent et qui tombent dans l'enfer de la drogue, dans une sorte d'engrenage qui est induit par une société dans laquelle ils ne trouvent pas de travail, dans laquelle on les réduit à ce rôle-là. Et on nous montre, mais ça ne donne pas envie de se droguer, quoi. Enfin, on nous montre les phases terribles de comment, quand on arrête la drogue, avec les vomissements, les visions, les crampes, enfin, ça rigole pas, quoi. C'est assez réaliste. Et moi, je trouve que c'est des films qui frappent par leur vérisme, mais qui en même temps, c'est ça qui est étonnant, il y a un vérisme, et en même temps, on construit une vraie mythologie. Par exemple, il y a une chanson dans Colegas, une chanson qui revient comme un leitmotiv, qui est une sorte d'hymne des kinky, qui est une très belle chanson en plus, qui est l'hymne des voyous. Il faut savoir que l'esthétique kinky, aujourd'hui, elle reste très vivace en Espagne, et que, en particulier, dans la musique. C'est un truc des cultures latines, et en particulier en langue espagnole, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Amérique du Sud, avec toutes ces chansons faites en l'honneur des trafiquants, tout ça. Bon, bah là, on a un peu ça aussi dans cette histoire de cinéma kinky. Enfin, c'est un héritage de cette culture de cette culture kinky, qui n'est pas qu'une culture du cinématographique. C'est vraiment une culture. Il y a du théâtre kinky, il y a de la musique kinky. Et donc, il y a des films kinky, il y a du cinéma kinky, c'est assez passionnant. Alors, les deux autres films d'Eloy de la Iglesia qui constituent ce coffret sont El Pico et El Pico 2, qui racontent, en gros, hein, comment, c'est toujours le même acteur, hein, donc le rôle principal, qui raconte comment un jeune homme de bonne famille, puisque on est après la fin du franquisme, mais c'est le fils d'un mec de la Guardia Civile. Donc, c'est pas n'importe qui. Ils sont importants en Espagne. Hein. Bon, on sent bien que c'est un nostalgique de Franco, le père. Hein. Et qui va tomber dans l'enfer de la drogue. Et qui est homosexuel et qui va tomber dans l'enfer de la drogue. Deux choses dont on ne veut pas entendre parler son père. Enfin, en tout cas, on pourrait le croire parce que le film va bien, justement, ce personnage de mec de la Guardia Civile. C'est ça qui fait aussi le sel des deux films, parce que c'est un personnage incroyablement passionnant. C'est-à-dire qu'on a, on a un Eloy de la Iglesia qui est un antifranquiste convaincu, mais c'est pas pour autant qu'il va nous faire un film schématique, c'est pas pour autant qu'il va nous faire un film plein de clichés. Il y a de l'ambiguïté. Et on découvre que ce type de la Guardia Civile, qui est un facho, mais il va tout passer à son... C'est un vrai facho. Il est... D'ailleurs, on voit à un moment, il y a des terroristes d'extrême-gauche qui essayent de le tuer. Donc, c'est certainement un type qui a torturé. C'est certainement un type qui a été une vraie ordure sous Franco. Hein. Voilà. Et en même temps, on voit aussi une police corrompue hein, qui travaille avec certains dealers et tout. Bon, très, très glauque. Hein, avec le dealer qui a une femme enceinte et un bébé qui est imbibé de coke à la naissance, d'héroïne. C'est très, très glauque. Et... Parce que c'est des films glauques, hein, quand même. Faut dire les choses. C'est pas tout public. Et... Ce personnage de mec de la Guardia Civile, en fait, c'est pour moi ce qui fait l'intérêt des deux films. C'est-à-dire que lui, ben il aime son fils, en fait. Il aime son fils, c'est son fils. Son fils est homosexuel, son fils est un drogué, mais il va tout faire pour l'en sortir, quitte à le couvrir dans des affaires vraiment, vraiment glauques qui pourraient l'amener à avoir de très grosses emmerdes. Et moi, je trouve que c'est ça, ça fait vraiment... Le sel de ces deux films. Alors, plus le premier et le deuxième, on sent qu'il y a aussi une volonté de surenchère. Il y a un côté cinéma d'exploitation, en particulier avec ces scènes en prison, ce personnage qui est en cours de transformation, qui commence à avoir des seins, mais qui est encore un homme, enfin, et qui est filmé torse nu. C'était pas forcément obligatoire, mais c'était, disons, il y a une volonté aussi. Il y a un côté plus cinéma d'exploitation dans le deuxième. Mais, néanmoins, n'en demeure pas moins que ce sont pour moi deux films... assez passionnant parce que ce sont des films qui vont au-delà des clichés et qui ne nous donnent pas à voir une vision très schématique de ce que peut être la dépendance à la drogue. Et moi, j'adore ce personnage de garde civil qui n'est pas un type sympathique, mais qui est un type profondément humain. Et c'est là toute l'intelligence de l'œil de la Ecclésia, c'est d'en avoir fait un type profondément humain.
Et qui finit par sympathiser avec un homme de gauche. C'est vrai que le film et tu dis que c'est glauque, mais en même temps, c'est pas glauque pour être glauque, quoi. Non, jamais il ne tombe dans ce genre de travers, il n'est jamais complaisant par rapport à ce qu'il montre. Bon, sauf quand il filme ses acteurs nus, ça, c'est vrai qu'il y a une certaine fascination pour ces acteurs, qui sont quand même bien gaulés, les mecs. Hein. On comprend qu'il soit fasciné par eux. Hein. Mais c'est vrai que le film n'est jamais complaisant dans ce qu'il décrit. Bon, moi, je préfère... Oui, le 2, j'ai des réserves. Hein. Je trouve que, apparemment, ça a été plus ou moins une commande. Ça se sent un peu. Je ne vois pas ce que le film raconte de plus. Je trouvais que le premier se terminait. Là où il se terminait, se concluait bien. Je veux dire, je ne vais pas dire que c'était une happy end, mais ça se concluait bien. C'est vrai que ce personnage de flic qui dit à un moment oui, les mecs de l'ETA, il faut tous les buter, hein, il le dit, hein, c'est vrai que c'est un gars qui est plutôt radical, quoi. Mais jamais, c'est vrai qu'il ne juge pas ses personnages, en fait, sauf peut-être quelques flics, là, il y en a un qui, lui, n'hésite pas à frapper des gamins, etc. Bon, lui, il le juge un petit peu, mais sinon, les personnages principaux, il ne les juge jamais, quoi.
Oui, c'est un très beau drame qui arrive à justement éviter quelque chose dans lequel la majorité des films tombent, c'est qu'il n'est pas du tout cliché, que ce soit avec ses personnages au niveau de la drogue ou même au niveau de la sexualité. On dit souvent que le héros est gay, mais en soi, il y a un moment où il fait un plan à trois, donc on peut plus considérer qu'il est bi, même si c'est vrai qu'une grande partie du film tourne autour de son homosexualité. Et même lui, au début, la rejette. Quand il tombe face à l'homme avec qui il a déjà eu des rapports, il n'a pas envie de repartir dedans, il finit par y retomber. Il y a des plans qui sont aussi très durs. Par exemple, toutes les scènes de drogue avec les piqûres, les scènes sont montrées, elles sont dures. On voit littéralement les veines trouées. Pareil, tu l'as évoqué, Jérôme, on a le bébé addict à l'héroïne, bon, qui est un épisode très fun de South Park, mais qui en réalité est vraiment un drame. Et au niveau de ça, on a aussi quelque chose sur la transmission au final, finalement des fardeaux des parents, vu que le père veut que son fils soit un policier comme lui, alors que lui est aspire à autre chose. Et c'est intéressant parce qu'au moment où le fils révèle à son père qu'il est addict, il est en mode, bah, je peux plus te le cacher, je suis addict, il faut qu'on cherche une solution tous les deux. Et son père, en fait, se referme un peu dans sa procédure habituelle et de dureté de dire, bah, non, je vais t'arrêter. Au final, le fils part parce qu'il sait que son père, sans doute, l'aime et ne le fera pas. Et tout ce qu'on arrive derrière, c'est le père qui se remet en question, notamment avec le policier corrompu qui frappe les jeunes pour finalement essayer de retrouver son fils. Il fait ami-ami avec le politicien socialiste qui lui aussi essaye de retrouver son fils. On a un peu une jeunesse perdue parce qu'à aucun moment ils évoquent leur futur, donc on serait limite au niveau d'une jeunesse un peu punk. Et au final, le truc qui est intéressant, c'est que bah, on est après Franco, du coup on est dans un pays post-franquiste, on est dans un pays en transition et c'est quelque chose dont parle le film finalement, la façon dont les gens vont avoir une transition par rapport au passé.
Je rappelle que le cinéma Kinky d'Eloy de l'Ecclésia est disponible chez Artus Film. Un indispensable, hein. Il faut vous jeter sur ce coffret, vous l'avez compris, on pourrait faire 10 émissions sur le sujet, là, c'est passionnant. En fait, ce qu'on n'a pas dit, ce que Thomas a un peu dit, mais rapidement, c'est qu'en plus, c'est tellement pas manichéen que c'est pas qu'une question de moyens, parce que dans Collégas, on avait des pauvres gens, là, on a des gens qui sont des gens qui sont dénotables, quelque part. C'est-à-dire qu'on a la Guardia Civile d'un côté, et de l'autre, le meilleur ami du fils du mec de la Guardia Civile, qui donc, il a un meilleur copain. Et ce meilleur copain, c'est le fils d'un progressiste de gauche. Et pourtant, tous les deux sont dans la dope, et tous les deux vont aller dans la criminalité. Donc du coup, c'est encore plus fort. Ça renforce le discours du film de cette Espagne post-franquiste qui broie sa jeunesse. C'est pas uniquement parce que t'es pauvre. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un État contre sa jeunesse. Et ce qu'on voit d'ailleurs avec ce flic qui tabasse dans la deuxième époque de El Pico. Donc c'est vraiment tout sauf manichéen. C'est passionnant et c'est disponible chez Artus Film. Plongez-vous dans ce cinéma kinky. On vous le recommande vivement. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Se abrió la marea y el deseo se hizo hecho.